de suite sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonna Bolivier, l'heure du documentaire. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue, à la pêche à pied, en escalade, pour les moissons, au bain de soleil, en tricotant, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, cette heure est pour vous. 53 minutes, choisies dans 10 années de Sur les docks, un thème et 4 épisodes pour faire vagabonder ses pensées et prendre les chemins de traverse. Cette semaine, vivre avec l'amour. Aujourd'hui, compte joint, compte séparé, l'argent dans le couple. Un documentaire de Sophie Knapp réalisé par Christine Digère. Toi ou moi, c'est pareil, on s'aime, on partage tout. T'inquiète pas, c'est moi qui paye, non c'est moi. Ça t'embête de faire le chèque pour la cantine? Si je t'ai découvert, tu me rends flou. Qui paye l'électricité? Tu sais, c'est toujours moi qui fais les courses. Mais moi, je te rappelle que je paye les impôts. C'est quoi ces 257 euros sur le relevé de compte? Si on partage le loyer, alors on partage aussi la crèche. Moi, je suis pas le roi de la gestion. Trop facile, moi non plus. Comment ça se fait que je sois encore à découvert le 15 du mois? Je sais pas, mais ne compte pas sur moi. Tu veux pas m'aider pour l'emprunt de la voiture? Ok, mais pas en décembre, j'ai tous les cadeaux de Noël à faire. Je crois qu'il va falloir taper dans le compte épargne. J'ai pas à justifier mes dépenses. Bah si, un peu quand même. Mais comment on va s'en sortir ce mois-ci? Ce serait peut-être plus simple si on avait un compte joint. Peut-être, mais peut-être pas. Après tout, l'intimité se niche où elle peut quand on vit en couple. Alors, troisième volet, c'est le moment de sortir son chéquier.
Je suis peut-être naïve, mais j'aimerais vivre sans jamais compter, sans jamais avoir à parler d'argent.
Les conflits qu'on pourrait avoir, ça serait d'en parler ou pas? Est-ce que tu veux qu'on parle d'argent? Non, je ne veux pas qu'on parle d'argent. Et à l'inverse, non, il n'y a pas d'inverse. C'est-à-dire que c'est une chose dont on ne parle pas.
Simplement, la différence qu'il y a, c'est peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes gagnent davantage que les hommes, et les hommes ont un petit peu de mal à l'encaisser. Alors qu'une femme, je crois qu'elle gère tout mieux, de toute façon.
Je sais pas. Est-ce qu'on peut s'aimer sans compter? Oui, on peut s'aimer sans compter. Moi, j'aimerais bien aimer sans compter. Non, en fait, je pense qu'en comptant, on peut s'aimer.
C'est important que j'arrive à tout concilier, à savoir les horaires d'école de mes filles et quand même continuer à travailler pour avoir un petit peu d'autonomie financière, pas avoir demandé de l'argent à mon mari. Parce que l'argent, c'est le pouvoir.
J'ai des schémas qui sont extrêmement simples, c'est le partage. Et puis on dit, hors de question de faire des dépenses inutiles, ne pas tomber dans les excès. Puis l'argent, ça brûle les doigts, donc voilà. Compter les centimes ou les francs, en francs français à l'époque, pour acheter une baguette, à un moment donné, ça devient plus possible.
L'argent remplit une fonction affective et symbolique qui dépasse largement la simple satisfaction des besoins. Les problèmes qui peuvent surgir autour de l'argent dans le couple masquent souvent la difficulté à reconnaître l'autre tel qu'il est, avec ses différences et l'histoire familiale dont il est porteur. Les relations affectives sont fondées sur un troc implicite, avec des dons et des dettes permanents. L'argent est une monnaie d'échange parmi d'autres. Car tous les couples comptent, les sous, mais aussi leur temps ou encore leur marque de tendresse. Les tensions que suscite l'argent dans l'intimité du couple parlent aussi des blessures, des fragilités ou des renoncements parfois trop douloureux. Compte joint ou compte séparé, un documentaire de Sophie Knapp et Christine Digère, avec Vita, Martine, Olivier, Gaël et Christophe. Vita, vous êtes mariée depuis combien de temps ?
43 ans.
Est-ce que vous vous souvenez avoir abordé la question de l'argent au début de votre rencontre ?
Non. Mais quand on se fréquentait, c'est vrai que j'ai eu une surprise. J'avais emprunté de l'argent à mon fiancé, disons, de l'époque, on disait ni copain, ni petit ami. Et en fait, pour le rendre, j'ai mis un peu plus de temps et ça a été très violent. Ça a commencé comme ça, j'aurais dû avoir à me dire, puis non, je crois quand on est amoureux, on ne fait pas attention à toutes ces choses. En fait, moi, je ne suis pas très argent. Mais ce que je trouve important, ce n'est pas ça. C'est de bien s'entendre dans la vie et d'être heureux.
Alors, vous êtes née en Sicile. Vous êtes arrivée en France à l'âge de 10 ans. Dans votre famille, dans l'éducation que vous avez reçue, quel modèle autour de l'argent vous avez eu ?
Aucun. Ce n'était pas l'argent. C'était l'amour, lecture, opéra, bien se comporter. Ce n'était pas question d'argent. Puis de toute façon, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, donc on n'y pensait pas trop. Mon père a porté la paye à ma mère et tout se passait bien. C'était elle qui gérait l'argent. Je pensais qu'après, moi aussi, je ferais la même chose, mais ça ne s'est pas passé ainsi.
Donc votre mari est tunisien, il est venu en France à 18 ans. Est-ce que vous savez quel modèle il a reçu autour de l'argent ?
Il a reçu un modèle, c'est-à-dire mon beau-père était un homme assez riche et il a tout perdu à cause de sa mère, de sa sœur, je ne sais pas au juste. Et ça l'a beaucoup marqué. Parce qu'en fait, il y avait une contradiction entre l'image de la famille par rapport aux autres et l'image de ne pas avoir d'argent à la maison.
Alors vous vous êtes installés ensemble en quelle année avec votre mari ?
En 67. Je suis partie de la maison par la fenêtre, avec ma valise, et on s'est mariés au mois d'octobre.
Donc une fois que vous avez vécu en couple, comment ça se passait au niveau des dépenses, le partage ?
Alors là, ça, c'est un point très terrible, parce qu'en fait, il donnait 10 francs par jour. Il fallait se débrouiller avec 10 francs, il fallait ramener le reste à la maison. C'est-à-dire, il fallait ramener les comptes en disant, j'ai acheté ceci et cela. J'avais pas d'activité, j'ai élevé mes enfants, donc... De toute façon, j'avais pas le choix, en fait. Franchement, je réfléchis bien à la question, moi qui était très indépendante, et j'arrive même pas à me comprendre moi-même comment j'ai pu accepter. Alors, voyez.
Quand vous avez découvert ce rapport que votre mari avait avec l'argent, quelle facette de sa personnalité vous avez découvert ?
J'étais radin. C'est la première chose que j'ai pensé, qu'il était radin. Je ne me suis pas posé la question de me dire est-ce qu'il a une enfance difficile, est-ce qu'il manquait de ceci, cela. Non, j'estime que même si on a une enfance difficile, on peut être heureux avec ce qu'on a.
Alors effectivement, votre mari s'est très vite servi de cet argent comme un rapport de domination et de pouvoir sur vous ?
Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, du fait de ne pas avoir d'argent, de ne pas pouvoir sortir ou d'acheter, c'est vrai que je pense, pour lui, c'est une façon de vous assouvir. Voilà, c'est comme, c'est tout, comme, je pense, les rois suffisaient les serfs avec tout ça, en disant, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien à manger. Donc il faut attendre devant le Seigneur et Maître, comme on dit. Une fois, je me suis acheté une paire de chaussures. Il a fait la tête pendant 15 jours, il a fait chambre à part pour une paire de chaussures. Je trouvais ça très comique. Mais après tout, c'est son problème. Je m'en fous qu'il fasse chambre à part ou quoi. Moi, je me suis acheté les chaussures. Mais il y a eu plein de petits détails comme ça. Par exemple, quand je ne travaillais pas, je faisais de la couture. Même l'argent que je gagnais de la couture, il me l'a pris. Ça fait qu'à un moment donné, je n'avais même pas de quoi acheter du fil. Je travaillais pour des gens, pour leur coût de leurs vêtements. C'est devenu quelque chose de... Je ne sais pas comment expliquer, trouver le mot exact. Vraiment, c'est pas croyable.
Vous avez repris une activité professionnelle après avoir élevé vos 3 enfants.
Oui.
C'était dans une volonté d'autonomie, d'indépendance.
Oui, exactement.
Et comment l'a perçu votre mari ?
C'est très difficile à expliquer mon mari, parce qu'en fait, il est fier que quelqu'un fasse quelque chose, et puis d'un autre côté, il n'est pas fier, il a envie de... Parce qu'inconsciemment, il pense du fait que tu as la possibilité d'être libre, c'est au détriment de sa personne. Et en fait, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. En fait, je veux être libre parce que chez moi, quand j'étais jeune fille, j'étais libre. Mes parents me laissaient libre de faire ce que je voulais. Et quand je me suis mariée, c'est vrai que ça a été la prison. Et j'avais qu'une hâte, c'est me libérer de cette prison.
Donc pour vous, se libérer, c'était être autonome financièrement?
Ah ben, je crois que c'est logique, en fait. Hein. On ne peut pas se libérer sans avoir à être autonome et financièrement. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire sans ça?
Quand vous avez reçu vos premiers salaires, est-ce que votre mari vous a laissé gérer votre argent?
Jamais. C'était très difficile. J'étais partie travailler avec un monsieur que mon mari connaissait. Et donc, comme j'étais échaudée, j'ai dit à ce monsieur, je vais bien travailler pour vous, mais on va mettre une chose au point. À mon mari, je dis que je gagne tant, et vous me donnez tant. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, d'accord. C'est-à-dire, à ce moment-là, j'avais toujours un peu d'argent d'avance à moi.
Donc vous ne lui avez pas dit toute la vérité sur votre salaire?
Non, c'était impossible, parce que c'était, il fallait que je lui donne, enfin, à l'époque, c'était à chèque. Donc, tu me donnes le chèque, c'est moi qui gère l'argent, c'est tout, c'est comme ça. Tu veux travailler, c'est comme ça, sans ça. Tant pis, tu ne travailles pas.
Donc, à ce moment-là, il n'y avait qu'un seul compte en banque?
Oui, un seul compte en banque. Donc, après, quand mes enfants sont partis étudier, j'ai dit stop, ça suffit. Maintenant, je garde mon salaire. Et c'est comme ça, je suis partie un peu de la maison. Mais ça a été assez terrible, puisque bon, il ne m'a pas laissée tranquille pendant 2 mois. Donc il passait ses nuits à me téléphoner sans arrêt, en disant qu'il mettrait le feu à la maison, qu'il ferait ceci, qu'il ferait cela.
Finalement, comment ça s'est terminé, cette histoire?
Il est venu me rechercher, je lui ai donné une partie du salaire, j'ai gardé l'autre et j'ai fait mon compte.
Alors, après, votre mari a connu une période de chômage. Comment ça s'est passé financièrement dans votre couple?
Moi, je travaillais, je me démenais à travailler. Lui, il foutait rien, enfin, c'est le mot. Il invitait ses petites copines à la maison. Et le soir, quand je rentrais, il fallait que j'apporte le pain, que j'apporte ceci, alors que lui, toute la journée, était à la maison. C'est en fait sa façon à lui de me punir. C'était comme ça. C'était plein de petites choses à faire. Enfin, c'est mesquin. C'est pas...
Mais alors, au quotidien, qui c'est qui gère les comptes chez vous aujourd'hui?
C'est lui. Oh, il marque tout. Quelque chose, il aurait pu être un très bon comptable, je pense. Le moins de centimes qu'il dépense, il le marque. Pour lui, il n'y a que lui qui peut bien gérer l'argent.
Est-ce que vous pensez que ce sont les questions d'argent qui ont mis votre couple en danger à certains moments?
Ah, bien sûr, hein, c'est... Parce que quand les enfants commencent à grandir, qu'est-ce qui vous reste? Nous sommes 2 personnes, il faut qu'on... Chacun de nous fasse un effort pour s'entendre. Or, s'il y a ce problème d'argent toujours qui revient, on ne s'en sort plus. Maintenant, c'est devenu, c'est plus l'argent, mais c'est l'électricité, l'eau, il faudrait presque plus laver, allumer la lumière. Quand je lis, j'ai besoin de lumière le soir, je n'y peux rien, c'est comme ça. Et c'est difficile, hein. Je crois que c'est un homme très malheureux, en fait.
Donc maintenant, votre mari ne regarde pas vos comptes?
Ah non, ah non. Je suis bête, mais pas ce fois-là quand même. Ah non, non. Il a essayé maintes fois, mais non.
Il a essayé comment?
Il a essayé par tous les moyens, d'aller à la banque, de me torturer l'esprit, mais il n'a pas réussi.
Vita, est-ce que vous pensez que les questions liées à l'argent sont aussi intimes que les questions de sexualité?
Non. Bon, parce qu'on sexuellement s'entend très bien, alors. Donc, heureusement, il y a ce côté-là qui remplace un petit peu l'autre côté. Je pense pas que c'est lié, non.
Donc, c'était plus dur de parler d'argent?
Ah oui, que de sexe, oui. C'est ça qui est pas logique. Parce que vu sa religion, ça aurait été plus difficile de parler de sexe que d'argent. Mais non, c'est l'argent, je sais pas, c'est tabou, je ne sais pas.
Est-ce que vous pensez qu'on peut s'aimer sans compter?
Enfin, c'est ce que j'aurais voulu, hein. En tout cas. Il faut dire que les temps ont changé. De nos jours, c'est chacun pour soi. Ces histoires d'amour démodées, naïves qu'au cinéma. I'm
Martine, vous êtes mariée depuis combien de temps ?
Nous sommes mariés depuis 8 ans.
Est-ce que c'est romantique de parler d'argent au début ?
Non. On n'est pas très à l'aise, je dirais, même avec cette question, je dirais.
Pour vous, Martine, ça représente quoi, l'argent ?
Un peu de pouvoir. Enfin, j'étais beaucoup plus à l'aise dans notre couple quand je gagnais autant d'argent que mon mari. Depuis que je gagne moins d'argent, parce que voilà, les enfants, aménager un peu le temps de travail, etc., tout ça, faut se justifier un petit peu plus sur certaines choses, etc., en fait.
Dans votre enfance, dans l'éducation que vous avez reçue de votre famille, quel modèle on vous a transmis autour de l'argent ?
Alors déjà, on ne parle pas d'argent. Encore aujourd'hui, c'est un petit peu tabou, c'est un petit peu compliqué de parler d'argent. Ma mère a 77 ans, donc on pourrait se dire, tiens, on va peut-être parler de donation partage, ou d'héritage, ou de mettre au carré des choses en prévision d'eux, avant, etc. Tout ça. Non. Non, non, on ne parle de rien. C'est pas possible, en fait.
Donc, dans votre couple, Martine, quand est-ce que vous avez commencé à aborder des questions d'argent, concrètement ?
Tant qu'on n'habite pas ensemble, enfin voilà, c'est effectivement très romantique. Ça va être monsieur qui paye le restaurant quand on sort, et tout ça, là, là, là. Mais après, quand on habite ensemble, ben oui, mais voilà, qui est-ce qui paye l'électricité, tout ça, très, très, très basique, très terre à terre. Et quand on a commencé à habiter ensemble, effectivement, ben moi, j'ai commencé à poser des questions. Il me paraissait évident parce que monsieur est venu habiter chez moi au départ. J'étais propriétaire de l'appartement. Il me paraissait évident que monsieur participe aux dépenses courantes, en fait. Mais ça gênait un petit peu monsieur au départ. Ça ne lui paraissait pas logique parce que c'était mon appartement. J'aurais été locataire, peut-être que ça lui aurait fait autre chose, en fait. Et donc, il y avait un petit ajustement nécessaire au départ, un petit peu délicat. Bon, c'est passé assez rapidement, parce que bon, finalement, j'ai argumenté simplement en disant que monsieur payait un loyer avant de venir, il y avait des dépenses, donc j'envisageais pas forcément d'entretenir monsieur, surtout que monsieur avait les moyens d'eux. Bon, ça, c'était la première conversation sur l'argent. Et puis après... Ceci passé, il y a eu l'arrivée du premier enfant. Donc, première baisse de revenus de madame. On a ouvert un compte joint sur lequel chacun déposait la même somme tous les mois, en fait. La somme équivalente entre monsieur et madame. Et on payait toutes les dépenses courantes avec ça. Et puis, quand il y a eu l'arrivée de la deuxième, où là, j'ai eu mes revenus divisés par 3, ce n'était plus possible, forcément. Ça a quand même été matière à conversation entre monsieur et madame, puisque ça n'allait pas forcément de soi. Monsieur, parfois, a l'impression qu'on profite de lui, étrangement. S'il y a conversation, c'est aussi pour rassurer l'un et l'autre, en fait. J'ai été obligée d'argumenter en disant que... c'était pas forcément un but dans ma vie de me faire entretenir, au départ, je l'avais pas pris forcément de gaieté de cœur en me disant chouette, je vais être une femme entretenue ou tout ça, avoir une perte d'autonomie ou d'indépendance, et quelque part, ça l'a rassuré. Au tout départ, on se dit que ce qui paraît évident pour soi va l'être pour l'autre. Mais ça fait l'objet tout de suite d'une grosse désillusion, voire même d'une souffrance, parce qu'au départ, on se dit, mais c'est pas possible, il a rien compris. Mais il peut pas avoir compris si on lui a pas dit. Donc, faut forcément parler, dire les choses, donner son point de vue. Oui, 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 non, il y a eu une grosse période de tension dans notre couple, justement, quand chacun vivait mal les choses dans son côté, ruminait, sans forcément échanger. Et depuis qu'on a compris qu'effectivement la communication était un peu la base de tout, ça va beaucoup mieux.
Alors Martine, votre couple a eu besoin d'être accompagné à un moment où vous avez rencontré des difficultés. Est-ce que lors de ces entretiens, vous avez abordé la question de l'argent ?
Ah oui, bien sûr, on a abordé la question de l'argent. C'était même l'un des thèmes importants abordés lors de ces rencontres. Et ben, c'est là que justement l'un et l'autre a pris conscience que il pouvait y avoir justement un quiproquo. Moi, j'ai dit clairement mon ressenti. Je pense que mon mari ne le percevait pas. Justement, j'ai clairement dit que je vivais mal, le fait de gagner moins d'argent qu'avant, moins d'argent que mon mari, que je me sentais plus dépendante, que j'aimais pas me sentir justement devoir me justifier sur certaines choses, avoir perdu de l'autonomie, de la liberté. J'aurais aimé certainement que mon mari soit plus généreux. Le fait qu'il soit plus, qu'il ait un rapport plus tendu avec l'argent me rendait un peu triste déjà et un peu mal à l'aise, pas en sécurité quoi, en fait. J'ai été très surprise de voir que pour mon mari c'était une découverte, ce ressenti. Des fois, je suis obligée de lui dire qu'il est un petit peu, il a un rapport à l'argent un petit peu tendu. Je souhaiterais parfois un peu plus de générosité, mais il était éduqué comme ça en fait, toujours dans l'idée de, oui, mais si jamais on a un coup dur, il a toujours besoin d'avoir un petit bas de laine sur lequel s'appuyer et se dire, il n'y a pas de souci, on a de quoi faire face s'il nous arrive quelque chose.
Alors, vous avez acheté votre appartement ensemble. Comment ça s'est passé financièrement ?
Pour moi, c'était important qu'on achète notre résidence principale à 50-50 pour que justement, toujours par rapport à cette question de, pas de pouvoir, mais de position, de se dire on est aussi légitime l'un que l'autre. Et donc, même si j'ai pas de rentrée d'argent équivalente à celle de mon mari en ce moment, je sais que je suis propriétaire de notre logement, de famille. En fait, ça me donne une certaine sécurité. Quelque part, ça me met à l'abri.
Alors, vous avez donc deux filles. Est-ce que la maternité a pesé financièrement ?
En tant que femme, on a moins d'autonomie. On perd en disponibilité, du coup, pour son travail. Donc, forcément, les rentrées d'argent sont moindres. Ça se ressent. Monsieur, qu'il ait un enfant, deux enfants, trois enfants, il y a toujours le même rentrée d'argent, le même plan de carrière. Voilà.
Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, il y a quand même une différence entre les hommes et les femmes, alors qu'une fois que l'enfant est né, quelque part, on pourrait dire qu'on est de nouveau à égalité. Mais là, il y a un déséquilibre qui se joue aussi financièrement.
Non, là, je pense qu'il n'y a pas d'égalité. Là, c'est juste un leurre. Hein.
Est-ce que vous avez l'impression que les questions autour de l'argent dans le couple sont finalement aussi intimes que les questions de sexualité ?
Donc, autour de la sexualité, on arrivera plus facilement à en rire, en faire un jeu. Même quand il y a des difficultés, même quand il n'y a pas les mêmes besoins de part et d'autre, ou les mêmes envies, ou etc. et tout, ça peut être un sujet de plaisanterie. L'argent, c'est pas un sujet de plaisanterie du tout. Non. Ou alors avec les copines, mais entre monsieur et madame, c'est très très sérieux.
Olivier, vous avez aujourd'hui 50 ans. Vous avez vécu combien de temps en couple avec la mère de vos enfants ?
10 ans.
Vous êtes séparés depuis combien de temps ?
9 ans.
Alors pour vous, l'argent, ça représente quoi ? Quelle place ça occupe dans votre vie ?
Je suis peut-être pas un bon exemple. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je m'attache pas uniquement qu'à la valeur de l'argent, même si je connais son rôle essentiel dans les rouages de la vie, de l'économie, etc. Je suis plus sensibilisé par les valeurs humaines que les valeurs matérielles.
Et pour votre ex-femme, à votre avis, ça représente quoi, l'argent ?
Pour elle, les valeurs d'argent avaient beaucoup plus d'importance. Un côté matérialiste, à mon avis, plus établi. Une position sociale qui était plus importante. Un regard là-dessus qui était essentiel, à mon avis.
Est-ce que vous vous souvenez avoir abordé le thème de l'argent au début de votre rencontre ?
Oui, tout à fait, oui, complètement. De toute façon, c'était une obligation. Dès le départ, les données étaient claires. On avait décidé de choisir un appartement. C'était l'appartement donc de madame. Et à partir de là, les règles ont été mises. Dès lors où je venais, c'était participation au loyer. C'était ce qui me paraît relativement logique, quelque part.
Alors, quand vous avez commencé à vivre ensemble, comment s'est passé le partage des dépenses ?
les premiers mois, on va dire, les deux premières années, l'autre, c'était pas vraiment calculé. Après, il y a eu une deuxième étape. La deuxième étape, ça a été, ben, comme beaucoup de personnes, hein, la trentaine, on parle de famille, de faire des enfants, on se dit, tiens, on va acheter quelque chose. Et là, bon, bah, c'est pas difficile, hein. On achète une maison, la division, 50-50, donc chacun paye son crédit de son côté. Et puis le reste, on essaye de faire, de tenir des listes sur qui dépense quoi, qui va faire les courses. Qui va dépenser de l'argent pour les vêtements, pour les loisirs, pour les meubles. Enfin bon, c'est assez classique. Ça a commencé petit à petit à se dégrader parce que on a essayé de faire un compte commun. C'était pas trop une question d'argent qui rentrait à la fin du mois. C'était le fait de se dire, mais on rentre tout cet argent dans le seul objectif d'acheter quelque chose en commun qui est une maison. Mais à côté de ça, il y a peut-être aussi d'autres choses qui sont intéressantes. S'ouvrir au voyage, s'ouvrir à la culture. Et il y a un moment donné, faire tous ces sacrifices financiers et puis se dire que c'est juste pour acquérir cette maison avec le terrain, jusqu'à regarder dans le compte de l'autre, tiens, bah, t'as pas mis ton franc de la baguette sur le relevé de compte. À mes yeux, c'était pas supportable. Et à un moment donné, stop, quoi. On ne peut plus rester sur ce type de relation.
Mais qui regardait ce centime de baguette?
C'était elle qui me demandait de les mettre sur une tenue de compte commun. Mais systématiquement tout marqué en disant, bah tiens, le compte commun, il va manquer 3 euros. Est-ce que tu as mis les 1 euro de baguette? Ça devient lourd, quoi. Ce qui fait que très rapidement, au bout de quelques années, moi, le compte commun, on l'a arrêté. Et puis après, c'est parti à la calculette, quoi. C'est très déstructurant, en fin de compte, de vivre une vie en jouant à la calculette. Surtout quand on n'est pas dans une notion de besoin. Je reviens là-dessus, c'est très important.
Donc vous étiez dans l'idée d'égalité par rapport à ce que vous mettiez dans les dépenses communes ?
Ce sont des équilibres qui peuvent se trouver rapidement dès lors où il y a un mot d'ordre qui est la communication. Et il faut comprendre quelles sont les attentes et les craintes et les peurs de l'autre pour pouvoir, à un moment donné, mettre en place un plan. C'est basique, mais c'est pas simple.
Est-ce que ça a pu avoir lieu dans votre couple ?
Non. Non, parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir en face quelqu'un qui était très chiffre. Et puis moi, qui ne suis pas dépensier, mais s'il faut acheter une baguette, je ne marque pas sur un cahier au crayon, quoi. C'est bon, ça va, quoi.
Les gens ne te touchent pas, faut faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus.
Est-ce que vous vous souvenez de votre premier gros conflit autour de l'argent ?
Il n'y a pas eu de gros conflit. Je pense qu'il y a eu des petits impacts au lieu d'avoir une grosse explosion. Ça commence par tenir des comptes, après ça les comptes ça va plus, après ça dans ces comptes il faut commencer à compter. J'en reviens toujours à l'histoire de la baguette, hein. Ça stigmatise un peu l'idée, c'est la baguette. Il faut ne pas oublier de mettre la baguette dans les comptes. Waouh ! Donc ça c'est un exemple, mais il s'est multiplié après, et puis après ça on a fermé le compte commun, et après ça, oui mais moi je dépense plus, oui mais moi je, et... C'est toute une multiplication de petites choses qui fait qu'à un moment donné, c'est fatigant. C'est fatigant à vivre.
Le rapport que votre ex-compagne a avec l'argent, est-ce que ça vous a révélé quelque chose de sa personnalité que vous ne connaissiez pas ?
Disons que ça m'a ouvert les yeux, plus que me révéler, parce que je ne m'intéressais pas à ça, quoi. Dans l'individu, ce n'était pas ça qui m'avait intéressé quand je l'ai rencontré. Et ça s'est alors révélé si vous voulez, au fur et à mesure. Et les personnes qui sont dans les chiffres, hein, parce que c'est le cas, ont un esprit qui est très lié à l'orientation de leur profession. Dans le cas présent, un professeur de mathématiques, ça, c'est lié au nombre, aux chiffres, aux comptes. Et à partir de là, bon, bah, c'est un raisonnement qui fait partie de l'individu. Il ne se force pas, naturellement, c'est comme ça. Alors, c'est certainement très bien, hein, ça calcule les intérêts, ça calcule comment on peut acheter, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je vais placer mon argent à droite ou à gauche, tiens, je vais investir là ou ci ou ça. Ce sont des discussions qui sont après liées à qui je suis, quelle image je veux projeter par rapport aux autres, et là, on dérape rapidement. C'est ce qui s'est passé pour moi, et à un moment donné, et s'il y a encore quelque chose d'essentiel dans un couple qui est l'amour, et qui est suffisamment fort pour pouvoir gommer certaines choses et puis arranger en communiquant, là, peut-être qu'il ne devait pas y en avoir assez et qu'on n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente.
Alors aujourd'hui, ça fait 10 ans que vous êtes séparés. Mmh. Est-ce que l'argent reste une source de conflit entre vous ?
Malheureusement, oui. Si les enfants étaient vraiment dans une position extrêmement dangereuse où il fallait participer à, je sais pas moi, des frais de santé, la nourriture ou des choses comme ça d'une façon évidente, il est et bien entendu que les enfants avaient ce qu'il fallait. Mais si c'était pour commencer à devoir payer les réparations de la maison qu'elle avait choisi d'avoir, enfin, on n'est plus dans une logique de couple, là. Bizarrement, je me demande si cet argent n'est pas le lien qui empêche de faire le deuil.
Mariage d'amour, mariage d'argent. J'ai vu se marier toutes sortes de gens, des gens de basse source et des grands de la terre, des prétendus coiffeurs, des soi-disant notaires. Quand même je vivrai jusqu'à la fin des temps, je garderai toujours le souvenir content du jour de pauvre noce où mon père et ma mère s'allèrent marier devant monsieur le maire.
Gaëlle, vous êtes en couple depuis combien de temps ?
Depuis 4 ans et demi.
Pour vous, ça représente quoi l'argent dans la vie ?
L'argent, c'est un moyen pour faire des choses au quotidien. Pas plus. C'est pas très important.
Et pour votre compagnon, à votre avis, ça représente quoi ?
Ça représente beaucoup plus, je pense. Le confort et surtout quelque chose de très important pour avoir des enfants.
Et est-ce que vous avez la même façon de dépenser l'argent ?
Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis plutôt économe, même si je dépense beaucoup, peut-être plus que lui. Je fais attention à comment et quand, et je sais ce que je peux dépenser. Alors que lui, il n'a pas de budget. Il dépense en fonction de ses envies, mais il ne sait pas s'il dispose de 100, de 1000 ou de 10 000. Et il peut dépenser 100, 1000 comme 10 000, alors que moi, non. Si j'ai 100, je dépense 100. Si j'ai 1000, je dépense 1000. Et si j'ai 10 000, je dépense 10 000.
À partir de quand, dans votre couple, vous avez commencé à devoir prendre des décisions autour de l'argent ?
La première fois où on a vraiment parlé d'argent concrètement, c'est effectivement quand il a s'agit de s'installer ensemble, de prendre un appartement ensemble, parce qu'on s'est installé ensemble, il est venu chez moi. Donc le problème ne s'est pas posé. En revanche, quand on a décidé de louer un appartement ensemble, effectivement, ça s'est posé. Mais on a décidé de s'installer ensemble aussi dans un appartement commun, à partir du moment où lui a eu un travail stable et donc un salaire régulier.
Alors quand vous avez commencé à vivre ensemble et qu'il est venu s'installer chez vous, est-ce qu'il participait aux dépenses ?
Pas vraiment. Il participait, si, sur les choses du quotidien, sur les courses, les choses comme ça, mais pas du tout au loyer ou ni aux dépenses fixes du type internet, électricité, charges mensuelles. Donc il participait peu finalement. Alors c'est quelque chose que j'accepte parce que c'est encore le cas aujourd'hui. Au nom de l'amour, oui, et puis parce que je peux le faire et que ça ne me pose pas vraiment de problème. En revanche, bah, il faudra que ça s'arrête à un moment donné, forcément. Le fait est que moi, je peux assumer tout toute seule. Donc ça, je pense que c'est un confort et pour lui et pour moi. Donc on n'a pas une pression de ne pas pouvoir payer notre loyer à la fin du mois. Maintenant, moi, je plaide un peu pour qu'il y ait un peu plus d'équilibre et qu'il y participe à la hauteur de ses moyens, bien sûr, mais qu'il y participe pour, par principe, quoi.
Gaëlle, dans votre enfance, quel modèle autour de l'argent vous avez eu de votre famille ?
Un modèle, à mon sens, simple, où tout est mis en commun. En tout cas, pour mes parents, l'argent était mis en commun. Et on dépense raisonnablement pour pouvoir se faire plaisir à un moment donné. Donc, moi, j'ai cette image-là et je ne vois pas d'ailleurs comment on peut le gérer autrement, bizarrement. Voilà, on ne dépense pas plus que ce qu'on a. On travaille pour gagner son argent et on sait combien on a gagné et donc combien on peut dépenser. Donc, moi, on m'a toujours dit ne jamais être à découvert, de vivre à la hauteur de ses moyens.
Alors, votre compagnon, à votre avis, quel modèle il a reçu par rapport à l'argent dans sa famille ?
Ses parents avaient plus d'argent que les miens. Et du coup, je pense qu'il a eu accès à l'argent plus facilement que moi. Et des vacances de riches, quoi, j'allais dire, quand on se raconte nos enfants, c'est pas du tout les mêmes. Et c'est pour ça que lui, je pense aussi à un autre regard sur lui quand il va faire des enfants et l'argent qu'il va avoir, c'est que pour lui, il faut pouvoir envoyer ses enfants au ski, en colo, à l'autre bout du monde. Moi, pas du tout. Moi, je suis partie en camping en Écosse sous la pluie avec mes parents et j'étais très contente de mes vacances qui ne coûtaient rien du tout.
On allait au bord de la mer. Avec mon père, ma sœur, ma mère, on regardait les autres gens, comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose.
D'où vient l'argent dans votre couple ? Uniquement de vos salaires ou aussi de vos familles ?
Alors, uniquement de nos salaires au quotidien. En revanche, on a de l'argent. Enfin, nos parents nous prêtent de l'argent si on en a besoin. À savoir, là, on parle en ce moment... Enfin, on parle, je parle d'acheter un appartement. Il est clair qu'on va avoir besoin de nos parents et qu'eux, de toute façon, sont disposés à nous en prêter.
Donc, par rapport à cet appartement que vous pensez acheter ensemble, est-ce que vous pensez participer à 50-50 ou pas ?
Alors non, a priori, on ne va pas participer à 50-50. Moi, au départ, le banquier m'a préconisé d'acheter toute seule, chose que je ne veux pas faire, donc on va acheter à deux. Mais on mettra dans l'acte, ou en tout cas dans le prêt, je ne sais pas exactement comment ça se passe, on mettra un pourcentage à hauteur de ce que chacun amène.
Pourquoi le banquier vous a conseillé de faire ça ?
Parce que Laurent étant au chômage, il ne lui prêterait pas. Mais la difficulté, c'est que ça le freine dans plein de choses, mais qu'à un moment donné, il faut se stabiliser. C'est aussi lui qui est en cause, puisqu'il choisit des voies où, qui ne sont pas sûres, où le salaire à la fin du mois n'est pas sûr. Et à un moment donné, on choisit ou pas de persister dans cette voie ou de trouver autre chose.
Alors, par rapport à cette différence de revenus, est-ce que ça pose un problème à vos familles respectives ?
Oui, je pense que ça en pose un, puisque par rapport justement, par exemple, sur l'achat d'appartement, ma mère m'a bien dit, attention, ne signe pas 50-50. Vu que vont me donner 100 000 euros, je pense qu'ils n'ont pas envie que ce soit pour lui un jour s'il se passe quelque chose entre nous. Ils veulent que ça me mette à l'abri, moi.
Gaëlle, vous allez vous marier l'année prochaine. Est-ce que ça va changer quelque chose par rapport à l'argent ?
Je crois pas. En tout cas, de mon point de vue, ça ne changera rien. De la même façon, je pense qu'on va faire un contrat de mariage. Par contre, je pense que pour Laurent, le projet de mariage et le projet d'enfant que l'on a, lui font voir les choses un peu différemment. Alors c'est pas concret, mais je pense que le jour où je tomberai enceinte, il est possible qu'il trouve un CDI et qu'il se mette un peu dans les rangs plus conventionnels, on va dire.
Mais vous, par contre, en tant que femme, si votre compagnon avait un revenu supérieur, ça vous dérangerait pas d'arrêter de travailler, quitte à perdre un petit peu d'argent ?
Alors ça, je sais pas. Ça m'est jamais arrivé d'avoir un compagnon qui gagne mieux que moi. Donc, je sais pas.
Alors aujourd'hui, bon, beaucoup de couples se séparent. Est-ce que vous gérez aussi votre argent dans cette éventualité, voilà, que ça peut arriver ?
Non. Non, enfin... Et encore que quand on dit futur contrat de mariage, achat d'un appartement au prorata de ce qu'on apporte, quelque part, c'est quand même pour anticiper une éventuelle séparation.
Donc vous avez un projet d'enfant. Est-ce que vous pensez vous arrêter de travailler, vous, quand vous aurez un enfant ?
Alors, dans l'absolu, je pensais m'arrêter quelques mois pour m'en occuper. Mais effectivement, il faut être un peu réaliste. Si l'enfant arrivait aujourd'hui, je ne pourrais pas m'arrêter de travailler. Financièrement, on ne pourrait pas vivre. On ne pourrait, pour le coup, plus payer notre loyer, plus assumer les choses du quotidien. Donc, ça pose une vraie question. On est un peu dans un système advienne que pourra, là.
Vous voyez déjà ce que vous allez transmettre comme modèle autour de l'argent à vos enfants ?
Moi, j'aimerais bien transmettre le modèle que mes parents m'ont transmis. Mais c'est, effectivement, ça va être difficile parce qu'avec Laurent, on ne peut pas pour l'instant avoir le même modèle que celui que j'ai en tête, où on partage tout, où on est tout à 50-50. On ne peut pas, puisque si je ne sers pas de garde-fou, on aura plus d'argent, quoi. Parce que Laurent est quand même. Il est à la fois. Il rapporte peu d'argent dans le foyer pour l'instant, et à la fois, il est plus dépensier. Il anticipe moins sur l'avenir que moi. Donc il faut quand même que je fasse attention.
Est-ce que vous pensez qu'on peut s'aimer sans compter ?
Je crois que non, malheureusement. Je crois que non, parce que moi, c'est vraiment dans cette optique que j'étais. Et en fait, là, je suis obligée de compter. C'est ça qui est dommage. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Et en même temps, mon compagnon, son comportement, finalement, me pousse à compter. Parce que je dois le faire pour nous deux.
No friends, no dreams, no pocket money. All around my body, a fence around my kind. Nothing comes to me easily, not least wise peace of mind. Still I keep moving, trying to break on through. I don't know nothing else to do.
Christophe, vous êtes marié depuis combien de temps ?
Ça fait 19 ans que nous sommes mariés.
Est-ce que vous vous souvenez avoir abordé le thème de l'argent au début de votre rencontre ?
Je ne crois pas, non. Non, non. On était un peu bohème et on improvisait par rapport à ce que j'avais moi connu de chez mes parents. C'était une logique qui était un peu comme ça, naturelle. Avec ma femme, avec Aideen, on ne s'est jamais tellement posé de questions pendant toutes ces années. Je pense que maintenant... On se les pose plus parce que sans doute il y a une pression du fait qu'on ait deux grands enfants qui demandent du coup une organisation et aussi de payer la maison qu'on a achetée il y a quelques 3 ans maintenant. Donc ça nous oblige à être beaucoup plus rigoureux sur l'argent. Mais jusqu'à là, c'était une improvisation perpétuelle. Avec un compte commun ou un compte séparé, puis finalement on s'est aperçu que c'était plus simple de mêler tout ça. D'ailleurs, je me demande si c'est pas une manière de communiquer que d'avoir un budget commun. C'est-à-dire, c'est une espèce de confiance qu'on fait à l'autre en disant, ben voilà, écoute, on n'est pas forcément d'accord dans le détail. On peut avoir de temps en temps des stress en se disant on va pas s'en sortir, comment on va faire pour finir, pour payer, tout ça. Mais finalement, ça oblige un petit peu à se donner des moments d'en parler. Bon, ça c'était dans le passé. Je pense que maintenant, c'est vrai que on a du mal à en parler. Mais c'est sans doute parce qu'on on vit une situation peut-être un peu difficile d'emploi, de relation de couple aussi, donc l'argent peut se transformer en quelque chose dont on peut pas parler en ce moment. C'est très difficile d'en parler. Parce que ça soulève tout d'un coup des espèces de sentiments de que l'autre veut vous contrôler, que l'autre veut intervenir, que l'autre ne vous fait pas confiance. Donc finalement, c'est un espèce de blocage, voilà, en ce moment.
Alors à la maison, comment ça se passe? Qui c'est qui gère les dépenses, le budget?
Personne. Non, qui gère le budget, on gère pas tellement le budget en fait. Le budget, c'est un peu comme une course et avec à la fin du mois une espèce de ligne qu'il faut franchir et puis le passage 45, 50 où on commence à se dire que là, bon, les enfants d'un côté grands qui ont besoin d'argent pour pouvoir démarrer sur des choses, on se rend compte que finalement la course à un moment on commence à être un peu essoufflé, à pas avoir les mêmes ressources psychologiques, financières. Il faut un peu se caler quelque part. Et là, on a un peu intérêt à être organisé. Et ça, je pense que c'est un projet commun aussi. On le ressent, on a le même âge. Donc on ressent le même envie de savoir que les 15 prochaines années, on va quelque part. Alors qu'avant, c'était une espèce de... d'improvisation permanente. Très peu de réflexion sur notre vie sur le long terme.
Donc finalement, là, vous avez deux enfants qui sont presque adultes. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous leur transmettez autour de l'argent, comme valeur, comme modèle?
Alors, c'est marrant parce qu'ils sont deux. Et il y en a un qui a pris conscience que ses parents étaient un peu limite en termes de gestion de l'argent. Et l'autre, la deuxième, qui elle a pris plutôt notre côté. Elle a pas du tout de relation à l'argent très pour elle. Elle veut même pas d'argent de poche parce que l'argent arrive et repart sans se poser de questions. Quoi. Et voilà, pour elle, c'est une valeur pas du tout intéressante. Donc elle gagne de l'argent en faisant des petits boulots, de babysitting, tout ça, mais ça part instantanément, elle n'a pas du tout de gestion. Alors c'est marrant, on a un banquier et une artiste à la maison.
Et comment vous avez vu que votre fils était justement dans un rapport différent à l'argent?
Parce que assez rapidement, il s'est associé à nos problèmes, c'est-à-dire qu'il participe à la gestion de la famille, c'est-à-dire qu'il peut... Il va essayer de nous aider à gérer les problèmes d'argent. C'est comme si c'était un conseiller financier, quoi. Il peut avoir vraiment des avis assez pointus. Concrètement, dans des discussions, il va donner son avis.
Il a quel âge ?
18. Pas 17. 17. Et ça dure depuis 2-3 ans peut-être, ou je sais pas.
Est-ce qu'il a pu même s'inquiéter pour vous ?
Ah oui, oui, sûrement. Non, mais c'est sûrement pour ça, à mon avis, qu'il s'est investi dans l'histoire. C'est qu'il a dû se dire, mes parents, c'est compliqué, ils ont du mal à gérer leur histoire, donc autant que je les aide. Alors on essaye de pas trop l'intégrer, parce que c'est vrai qu'il a d'autres problèmes à régler que ça. Mais en même temps, il faut en parler, parce que c'est présent. Même lui, dans sa réflexion, il se pose des questions quand même sur comment ça va tourner. Là, par exemple, il va être étudiant dans une ville de province, savoir comment on va financer ça. Bon, il était intéressé de savoir comment on va se débrouiller.
Pourquoi il a pensé que c'était compliqué pour vous ?
Ben, je pense que dans ma famille, qui est une famille au sens large un peu bourgeoise, classique, Paris, province, banlieue, on doit être sans doute le couple à part qui improvise leur vie, qui font un peu n'importe quoi. Donc je pense que assez rapidement, il a dû sentir qu'on était un peu catalogué comme ça. Donc du coup, lui, il a dû se dire bon, on va prendre un peu on va s'investir dans ça quoi. Je pense aussi que c'est quand même la rencontre de deux manières, c'est-à-dire que dans la culture de ma femme, l'argent n'a pas du tout la même valeur non plus. Moi, je peux prendre des risques, parce que d'une certaine manière, je sais quand même que j'ai un milieu favorable qui, si vraiment ça tourne mal, pourra quand même m'aider. Alors que je pense que dans la culture de ma femme, il y a une entraide très très forte de tous les jours, mais sans réflexion à long terme, sans projection sur les 20 ans à venir.
Votre couple a eu quelques difficultés, vous vous êtes fait aider. Mmh. Et est-ce que dans ces entretiens que vous avez eus, le thème de l'argent a été abordé ?
Tout à fait récemment, ouais. Et c'est super important. D'ailleurs, j'ai maintenant l'impression d'aller voir quelqu'un qui va nous aider à gérer. Parce que c'est vrai que c'est la projection de soi-même. Je crois aussi que c'est ça qui aide. C'est que c'est vrai que l'argent, d'une certaine manière, comment tu vis avec l'autre, et je pense que c'est important quand ça va pas bien d'essayer d'écouter l'autre, de plus être dans une situation bloquée qui t'enferme dans l'instant. Et du coup, la relation que gère le psychologue peut t'aider à te projeter, et finalement l'argent peut t'aider à comprendre un peu, à essayer de te projeter dans l'avenir et de savoir qu'est-ce qui t'empêche de le faire. Et c'est vrai que du coup, ça fait forcément référence à sa propre culture familiale, à ses propres parents. Des premiers résultats de ce qu'on a pu aller analyser, c'est le fait qu'on ait grandi un peu dans un monde d'adolescence. Comme si on n'avait vraiment jamais été adulte, qu'on avait prolongé une adolescence jusqu'à il n'y a pas longtemps. Du coup, l'adolescent n'a pas envie de se poser ces problèmes-là, il a envie de vivre à fond, de faire des rencontres, de voyager, de claquer ses thunes comme il veut, sans qu'on lui dise quoi faire. Et là, à notre âge maintenant, d'être dans une situation où on n'a pas vraiment fait attention à ça...
Donc finalement, vous avez fini tous les deux votre adolescence vers 40 ans ?
Peu, 45, ouais. Voilà. À peu près.
Conjoint ou compte séparé, un documentaire de Sophie Knapp, réalisé par Christine Digère. Merci à Vita, Martine, Olivier, Gaël, Christophe, Pierre et Daniel Lopez. Prise de son, Arthur Gerbeau et Benjamin Chauvin. Mixage, Rémi Fessard. Attaché de production, Christine Gage et Laure-Hélène Planchet. Coordination, Alexandre Hérault.
L'heure du documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens et podcast pour le rendez-vous chez le banquier, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire. Et demain, quatrième épisode, des petites histoires d'amour à bricoler soi-même.